Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
San Quinto de la House.
Radio News and People Radio.
Que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène au Burkina Faso ce soir, où nous étions déjà hier et où nous parlions de cette fameuse centrale photovoltaïque dont les étudiants de Ouagadougou ont parlé à Emmanuel Macron. On va vous la montrer, cette centrale. On va vous la faire visiter. Vous verrez ce qu'elle représente pour le pays. 18h45, l'actu en série le mercredi, les États-Unis, Trump, saison 2, avec notamment des retweets très malheureux, très peu habile une fois de plus du président américain. 18h50, Eva Bétan a vu Vienne la nuit, un documentaire formidable qu'elle viendra défendre. 18h55, l'édito d'Olivier Poujade ce soir dans le sous-marin, ou presque le sous-marin argentin. Mais d'abord, je vous emmène dans la plaine de Ninive, en Irak, avec des livres plein les mains et un frère dominicain aussi pour vous accompagner. Le monde est vaste et aussi tellement petit.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Père Nardjib.
Bonsoir.
Content de vous avoir avec nous lors de un de vos allers-retours entre Paris et Erbil, où vous vivez toujours avec les livres donc que vous restaurez, que vous avez sauvés avant l'arrivée de Daesh. On va revenir évidemment sur cette histoire qui est la vôtre, sur la fuite qui a été la vôtre. Votre histoire a traversé la planète. C'est toujours important de se la remémorer. Combien vous en avez des livres restaurés d'ailleurs aujourd'hui, quand vous les comptez à Erbil, vous en avez combien?
Nous avons dépassé 8000 déjà.
Et vous continuez à numériser en ce moment ou pas?
On continue, même durant l'exode et dans les camps des réfugiés, on était là à peine manger et boire, mais les livres, on était en train de les restaurer et les numériser.
Et est-ce que vous en recevez encore? Est-ce qu'on vous en amène encore?
Bien sûr, on a beaucoup de, comme les êtres humains, il y a beaucoup de rescapés. Et il y a beaucoup de rescapés aussi des livres qui ont été déchirés, brûlés ou rongés par les rats ou par les mythes ou par les Daesh, justement. Et donc on essaie de le restaurer, de le mettre en place, tant bien que mal, bien sûr. On ne peut pas faire revivre les morts, mais on leur donne au moins une existence.
Mais vous savez combien ont été perdus? Je sais que ça vous arrache le cœur d'y penser, mais est-ce que vous savez combien ont été perdus?
Je ne veux pas trop y penser, parce que déjà au moins 25 à 30% de ce que nous avons déjà numérisé n'existe plus, malheureusement. Mais au moins déjà, on a une copie numérique de cela. Et donc, un manuscrit numérisé devient immortel d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on leur donne une nouvelle vie, au fait, pour qu'il soit utilisé par les chercheurs.
Il faut que faut rappeler aux gens qui nous écoutent que vous avez sauvé, vous numérisez des livres qui n'ont évidemment pas de valeur, qui ont plusieurs siècles d'existence avant vous. Le plus vieux, par exemple, peut avoir quel âge dans ce que vous avez?
On a de 10e siècle, 10e, 11e siècle, beaucoup de parchemins. Et moi-même, j'ai numérisé un Nouveau Testament, un lectionnaire, daté déjà 945. Et beaucoup d'autres, bien sûr, venant un peu de partout. C'est pas seulement des manuscrits chrétiens, mais aussi des manuscrits de l'islam, des yézidis, des sabéens, les gens de Jean-Baptiste. Tout ce qui est écrit à la main a de la valeur et a une histoire. Et pour moi, chaque manuscrit représente un être humain ou un peuple.
Parce qu'il faut rappeler que vous êtes ce qu'on appelle un chrétien d'Orient. En lisant votre livre, j'ai compris que cette appellation vous faisait presque sourire, parce qu'en réalité, en termes de chrétien d'Orient, vous êtes les premiers chrétiens, surtout, en fait. Et cet endroit dont vous nous parlez, cette plaine de la Ninive, et toute cette plaine autour, ce sont les terres de Saint Thomas. Et qu'on croit ou qu'on ne croit pas, ce sont des morceaux d'histoire biblique, en fait. C'est vous nous parlez de Noé, vous nous parlez de Jonas et de sa baleine, on est dans ce territoire-là, on est dans ce berceau-là, en fait.
Absolument. La Mésopotamie est le berceau de la civilisation, de l'écriture, de l'invention, et aussi le berceau de la chrétienté. Et d'ailleurs, on garde toujours la langue araméenne, qui est notre langue maternelle. À la maison, on parle que l'araméen, et c'est la langue de Jésus-Christ. Et cette langue, on la garde jusqu'aujourd'hui, et qui nous donne cette identité, si vous voulez. Mais en même temps, on est très très en contact avec tous les peuples de jadis et les peuples d'aujourd'hui. Et malheureusement, ce berceau est devenu un berceau de violence et des torrents. Au lieu de Tigre et l'Euphrate, il y a beaucoup de torrents de sang et de l'injustice. Et à tel point, vraiment, les êtres humains n'ont plus presque de valeur à cause de ces gens avec cette idéologie néfaste qui sont Daesh. Donc l'État islamique a commencé à ravager la Mésopotamie. Heureusement, on commence à en finir. Les gens ont rasé la barbe, mais on ne sait pas, j'espère. D'ailleurs, ils vont nettoyer au moins déjà leur idéologie.
Alors justement, j'allais vous poser la question, parce que votre livre qui s'appelle « Sauver les livres, sauver les hommes » chez Grasset, il commence alors que Mossoul est déjà prise, mais Karakoche, où la plupart des chrétiens se sont regroupés, se sont réunis. Vous avez quitté Mossoul bien avant d'ailleurs. Karakoche est un lieu pour l'instant pas encore attaqué. Et puis au fil de ce livre, on se rend compte que le lieu est aussi attaqué par Daesh. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde est revenu? Parce que ces lieux ont été libérés désormais. Est-ce qu'on peut revenir quand on est un chrétien dans ces zones-là?
En fait, ça m'a fait mal au cœur quand la région de Nénive, la plaine de Nénive et Mossoul ont été libérées. D'abord, de première vue, on est heureux de rentrer chez nous, mais on était tellement triste de voir ce qu'on a vu. C'est des villes et des villages entièrement pillés, détruits et brûlés. Comme si c'était une vengeance incroyable. Et on ne pouvait pas voir vraiment les couvents, les monastères dans lesquels nous avons vécu, dont certains remontent au 5e siècle, vous savez, comme Marilias, Saint-Élie, qui était bâti justement au 5e siècle, et d'autres, le tombeau de Jonas et d'autres, tout a été par terre brûlé et saccagé.
Vous êtes revenu, vous, à Karakoche ou pas?
Je suis rentré 4 fois, ou chaque fois je rentre de là-bas, je passe 2-3 jours au lit, par tristesse et par cette odeur de brûlure, et etc. Mais on a beaucoup d'espoir de rentrer déjà. 60% des chrétiens sont rentrés déjà à Karakoche dans la plaine de Ninive. Mais Mossoul, c'est encore loin de cela, parce que la rive droite, surtout là où on vit, c'est le berceau aussi des chrétiens, ça sera pour beaucoup plus longtemps, parce que tout est détruit.
Et c'est beaucoup plus dangereux. Est-ce que c'est toujours dangereux pour vous? Parce qu'il faut rappeler que la destruction des biens des chrétiens d'Orient, et même la persécution des chrétiens d'Orient, date pas de Daesh. Ça a commencé bien avant, et en particulier là où vous êtes, en Irak, au début des années 2000, après la première guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe, pardon, sous Saddam Hussein. Il faut rappeler que donc il y a eu cette période-là. Est-ce que ça veut dire que Mossoul, que vous aviez quitté vous 10 ans avant, est toujours dangereux pour vous?
Absolument, très très dangereux. Disons beaucoup moins qu'avant, moins visible qu'avant, parce que après la chute de Saddam en 2003, les groupes fanatiques, donc les salafistes, les jihadistes, bien avant Daesh, parce que Daesh n'est pas descendu du ciel, ne sont pas des extraterrestres, c'est de l'accumulation du passé. Imaginez en 2004-2005, 5 prêtres ont été assassinés. Et un évêque, Monseigneur Farage, également a été assassiné. Et moi-même, mon nom était sur la liste des gens très dangereux à éliminer. Et donc, beaucoup de chrétiens ont été exposés au danger. Donc, au fur et à mesure, les gens commençaient à quitter. Et ces groupes fanatiques, justement, qui ont donné naissance, pas seulement à Al-Qaïda, parce qu'on a été menacé plusieurs fois par l'Al-Qaïda, notre église, des bombes, des kamikazes, etc. Et en 2014, justement, le groupe de l'État islamique qui a déclaré, justement, juste en face de notre église, dans cette mosquée qui a été détruite par eux-mêmes, d'ailleurs, et ils ont attaqué, il n'y a plus personne, parce qu'ils nous ont donné un ultimatum, imaginé de 24 heures, pour les chrétiens, et c'était annoncé dans les mosquées, dans les haut-parleurs. Vous, les chrétiens, vous n'avez qu'à choisir entre 3 choses. Partir, se convertir ou mourir. Donc ces 3 choses, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir de partir et personne ne s'est converti à l'islam.
Et vous dites d'ailleurs, lorsque vous êtes toujours à Karakoche, vous savez que l'arrivée de Daesh est imminente. On ne sait pas très bien à quel moment ça va se passer. Vous dites, je n'ai pas peur tout le temps. En fait, ça veut dire qu'il y avait ça tout le temps comme un nuage au-dessus de vos têtes, évidemment, pendant cette période.
En fait, on n'a pas peur tout le temps, bien sûr, parce que on est tellement pris par cet exode, cette tragédie des êtres humains et la tragédie des livres en même temps. Et donc, on pensait qu'à sauver justement ce trésor qui est nos racines, et en même temps les êtres humains, les vivants, les enfants, les grabataires. Donc, on est partis ensemble. On ne peut pas laisser ce trésor à la destruction de Daesh.
Et vous racontez ça très bien. Vous êtes partis quasiment au dernier moment. Donc, vous avez rentré tous les livres qui sont tous incroyablement précieux, que vous maniez entre deux doigts. doigts seulement avec des gants. Là, cette fois, il faut les mettre dans les cartons, il faut les mettre dans la voiture. Il y a même des choses presque drôles. Vous êtes en train de partir, vous avez oublié les poissons rouges. Vous remontez pour les nourrir et vous dites, après tout, même pour les poissons rouges, autant mourir le ventre plein.
Absolument. J'ai vidé toutes les boîtes dans ce aquarium et j'ai prié justement pour eux et je les ai bénis d'ailleurs. Et je dis, il faut mourir le ventre plein plutôt que vide. Et on est partis tous ensemble. J'ai mis aussi, avec les autres frères dominicains de Caracoche, on a mis les enfants, les gens, sur les livres eux-mêmes.
Vous mettez des livres qui ont 7, 10, 20 siècles entre les mains de gamins qui ont 10 ans et qui partent comme ça en courant.
Absolument, absolument. Et une petite gamine, je donnais un lot entre ses mains, 5 ou 6 manuscrits, dont certains de 12, 13e siècle, seulement pour les mettre de l'autre côté des frontières, comme si on est en train de passer la mer Rouge.
Qui s'écarte d'ailleurs, puisque vous avez fini par arriver jusqu'au bout. Comme quoi, dans ces coins-là du monde, à la fin, tout devient biblique. Père Najib, ce sont les Peshmerga qui vous ont défendu pendant tout ce temps-là et qui ont dû fuir aussi à un moment. Mais les Kurdes étaient là et vous disaient même, nous sommes là, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, vous êtes à Erbil, comme beaucoup d'autres ont fait la route vers Erbil. Est-ce que vous vous sentez en pure sécurité? Est-ce que vos protecteurs sont là parmi ces Kurdes?
Je crois qu'ils sont toujours là. Et d'ailleurs, durant toute la période de Daesh, de l'État islamique, le seul endroit dans tout l'Irak où il y avait de la paix, il y avait de la sérénité, il y avait vraiment la liberté des gens qui circulent jour et nuit sans aucun problème, c'était le Kurdistan. Et donc ces Peshmerga, comme le gouvernement kurde, c'est vrai, il y a des islamistes aussi au Kurdistan, mais ils ont été maîtrisés par le gouvernement et par les Peshmerga qui ne pouvaient pas agir. Et aujourd'hui, on est vraiment très reconnaissant pour les Kurdes parce qu'ils nous ont rendu un service énorme. Ils ont accueilli déjà les Yézidis qui ont été massacrés par milliers et plus que 4500 femmes et enfants ont été kidnappés et violés et puis vendus dans le marché de Nekhassa, ça veut dire marché des esclaves.
Et en même temps, ils sont fragiles les Kurdes. On a bien vu cet enthousiasme du mois de septembre autour du référendum. Depuis, ils ont beaucoup déchanté. Il y a des zones, notamment autour de Kirkuk, qui ont été perdus puisque les autorités irakiennes, on va dire ça comme ça, les ont reprises. Est-ce que cette fragilité des Kurdes aujourd'hui vous rend vous aussi fragile ?
Je ne crois pas, parce que les chrétiens sont toujours forts par leur foi et non pas par seulement leur corps, hein, et ni par les armes, parce qu'on ne veut pas les armes. Et qu'on soit au Kurdistan ou avec le gouvernement central, pour nous l'important c'est d'agir, de faire quelque chose de bien, de donner sens à la vie et faire progresser l'être humain, et non pas semer la terreur, comme le gouvernement central avait déjà fait avant l'entrée de Daesh, qui s'est retiré, qui a laissé l'espace vide devant les Daesh, et c'était les Kurdes justement qui ont protégé Kirkuk et la plaine de Ninive.
Mais ça veut dire que votre, comment je vais vous dire ça, votre nouveau berceau en fait, aujourd'hui, c'est Erbil, c'est le Kurdistan, désormais les livres aussi vont rester ici et n'en bougeront plus.
En tout cas, pour le moment, je les bougerai plus d'ici parce que c'est le dernier bastion qui sont là. On n'a plus confiance de les ramener encore à Ninive ou à Mossoul parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, on a l'expérience depuis 2000 ans, tout le temps, des attaques, et spécialement depuis le début de l'islam, depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, sans cesse, tous les siècles, il y a 5 ou 6 génocides au moins. On a décompté contre les Yézidis depuis 1400 ans, 75 génocides explicites contre ce peuple qui est 3 fois millénaire avant Jésus-Christ.
Père Najib, une dernière question, parce que ça m'a frappé dans votre livre. Beaucoup de gens, évidemment, une fois arrivés à Erbil, pensent à l'Europe, veulent aller en Europe et parlent de l'Europe. Et vous vous dites, attention, les chrétiens d'Europe n'ont pas les bras grands ouverts. C'est un peu difficile à entendre et en même temps c'est vrai.
En tout cas, je crois que la France était le premier pays qu'on a connu. Et avec grand merci vraiment pour cela, ils ont ouvert pas seulement les bras, mais le cœur aussi. Mais c'est pas suffisant. Malheureusement, il y a autant des gens qui ont été accueillis par la France ou l'Allemagne. Et ils sont très peu, d'ailleurs. Beaucoup plus, ils sont encore au Liban et en Jordanie et en Turquie. Donc, il faut pas les laisser entre les deux. Par contre, la chrétienté ne finira jamais en Irak. Elle est là depuis 2000 ans et ça restera. Nos églises sont pleines aujourd'hui. C'est vrai, la majeure partie sont détruites. Mais ceux qui sont venus en Europe, je vous assure, ce sont des bons grains. des bons grains qui vont donner des fruits pour l'avenir, pour l'Europe. On n'a jamais entendu d'un chrétien kamikaze ou quelqu'un qui tue un autre. Ça sera un potentiel pour l'avenir de l'Europe.
Vous rentrez à Erbil, en tout cas, vous, en attendant, Père Najib.
Très bientôt.
Eh bien voilà, si vous rentrez bientôt, nous, on est ravis d'avoir votre livre entre les mains. Ça s'appelle « Sauver les livres et les hommes ». C'est écrit avec Romain Guber et publié chez Grasset. Merci de votre petit tour dans Un jour dans le monde.
Je vous remercie.
Merci mille fois.
France Inter. Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, c'est un retour au Burkina, cette fameuse centrale photovoltaïque dont on parlait hier. Eh bien, on va vous la faire visiter, justement. 18h50, l'actu en série, c'est Trump, marqué à la culotte par vous, Grégory Philippe. C'est encore une bourde, et même pire que ça d'ailleurs, avec des retweets plus que malheureux.
Oui, la polémique du jour avec des retweets ce matin de Trump qui agace au Royaume-Uni jusqu'à Theresa May.
Eva Bettan, merci beaucoup Grégory, à tout de suite. Eva Bettan, c'est un documentaire qu'on verra avec vous dans Un jour dans le monde.
Vienne avant la nuit de Robert Bobert, documentaire parce que il n'y a pas d'autre mot. C'est pas le mot qu'il faut, c'est un film extraordinaire de délicatesse et de profondeur. Si l'arrière-grand-père de Robert Bobert n'avait pas été expulsé d'Ellis Island, sa descendance n'aurait pas été exterminée dans les camps de concentration.
Eh bien, vous viendrez nous raconter ça dans un instant. Merci beaucoup. Voici de Limbos, No Business Next to Mine.
Give a damn. Let me warn you, Herman man, don't be your business next to mine. Say it, they'll tell you so. You better pack your things and go. You've been so long, it's in the back door. Can't you see I got your eyes? Let me warn you, Herman man, be your business next to mine. Business next to mine.
Allez, ils sont barcelonais, même si ça ne s'entend pas tout de suite. Ce sont de Limbos, No Business Next to Mine. Power Hit Radio.
Magic FM. Terra Radio. Desservi Prisco. 60 Minutes.
Florence Paracuelos, courbée sous les radars à la recherche de l'information dans les recoins de la planète. On commence avec les excuses de Justin Trudeau au Canada.
C'est même un exercice de contrition du Premier ministre au nom de son pays tout entier parce que les gays et lesbiennes canadiens ont été odieusement discriminés là-bas jusque dans les années 90 et notamment dans la fonction publique.
Nombreux ont été ceux qu'on a soumis à du chantage pour qu'ils dénoncent leur père, qu'on a obligés à trahir leurs amis et leurs collègues. Certains ont promis de mettre fin à leurs relations s'ils pouvaient garder leur emploi. Ceux qui ne perdaient pas leur emploi étaient rétrogradés. Ils n'ont pas été considérés pour des promotions qu'il méritait.
Justin Trudeau devant le Parlement, debout, il parle d'oppression et de violence systémique envers la communauté LGBT. Il parle de purge dans la fonction publique. Son discours en français et en anglais est grave. C'est une repentance de l'État, conclue par ses excuses officielles.
Pour vous avoir refusé l'égalité et vous avoir forcé à lutter constamment pour cette égalité, pour vous avoir forcé à vivre à l'écart, pour vous avoir rendu invisible et vous avoir humilié, nous sommes profondément désolés. Nous avions tort.
Nous avions tort. L'émotion de Justin Trudeau devant le Parlement canadien applaudit à de nombreuses reprises. Et il n'y aura pas que des mots pour réparer les torts de l'État. 3000 victimes vont être indemnisées pour 66 millions d'euros. Et un mémorial sera érigé à Ottawa, monument du souvenir aux carrières et aux vies brisées. Et puis à tous ceux et à toutes celles qui ont mis fin à leurs jours pendant toutes ces années. Il y en a eu beaucoup.
Et on passe à l'histoire d'un athlète sacrifié sur l'autel de la politique, Florence.
Nous sommes en Pologne, au championnat du monde de lutte des moins de 23 ans. Sur le tapis, Alizera Karimi, l'Iranien, mène 3-2 contre son adversaire russe. Il a clairement le dessus jusqu'à ce moment précis. On l'entend pas très bien, mais l'entraîneur du garçon est en train de lui demander de perdre. Père Alizera, voilà ce qu'il lui crie. L'athlète s'approche, il discute une trentaine de secondes avec son coach avant de revenir sur le tapis et de se laisser totalement dominer par son adversaire. Il concède 12 points et il perd, comme on lui a demandé. Pourquoi ? Eh bien parce que s'il avait gagné, il se serait retrouvé en quart de finale contre un lutteur israélien. Et ça, eh bien évidemment, c'est interdit par la République islamique d'Iran, qui ne reconnaît pas Israël. Le gouvernement et la fédération iranienne de lutte ont donc félicité Alizera Karimi d'avoir perdu. C'est un héros, voilà ce qu'ils ont dit. Mais l'affaire fait débat sur les réseaux sociaux, notamment dans la diaspora persane, rapporte Le Monde. Certains ne comprennent pas pourquoi il est interdit de se confronter à des Israéliens, se battre et vaincre le grand Satan. Tant après tout sur les terrains, bah pour eux ce serait logique. Le lutteur, lui, n'a fait d'autres commentaires qu'une vidéo postée sur Instagram. Il marche, c'est la nuit, et il écoute de la musique. Chanson iranienne, chanson triste, qui dit « Le silence est le dernier bastion, vous ne pourrez pas nous enlever nos droits ».
Donc, impressionnant. Allez, on passe à tout à fait autre chose quand les assureurs veulent nous endormir, Florence.
Alors, vous allez me dire que vous le savez, que c'est pas nouveau, vu les tarifs pratiqués par les assurances. Mais là n'est pas le sujet. Voilà. Parce que c'est au premier degré qu'il faut prendre cette information. C'est une grosse compagnie d'assurance qui s'est donnée pour mission d'améliorer le sommeil des Britanniques en produisant la berceuse parfaite et accessoirement la communication parfaite aussi. Elle a d'abord, cette compagnie d'assurance fait appel à l'intelligence artificielle pour composer en faisant ingurgiter une quantité de partitions à un serveur. À la fin, ça a donné ça. Oui, vous avez envie de dormir.
Bah, j'ai envie de dire non.
Vous n'êtes pas dans l'esprit.
Non, je suis pas dans l'esprit, non.
Pour y avoir envie de dormir, c'est fait pour. Attention, ça n'est pas fini. La même compagnie d'assurance a demandé le même exercice à un compositeur, Billy Williams, musicien et directeur des études instrumentales à l'université de Saint-Andrews, pour ce résultat. Je sens une sorte de scepticisme chez vous, Fabienne.
Oui.
À la fin, la compagnie vous demande de choisir. Qu'est-ce qui marche
entre
le mieux? Qu'est-ce qui vous fait le plus dormir? Moi qui ai essayé dans mon bureau.
C'est pour ça que vous étiez en retard pour le journal.
Et ben curieusement,
vous préférez la musique artificielle.
Et ben ouais, la musique artificielle est plus efficace pour dormir. Elle a moins d'intention, moins d'émotions.
Bah écoutez, je sais pas, là, vous voyez, là, ça me laisse totalement dubitative. Enfin, écoutez, je ne compte que sur moi-même pour m'endormir. Allez, à demain.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tolo.
A Bombeshmaio.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et nous sommes au Burkina Faso ce soir.
Oui, bien le sûr.
Je ferme le disjoncteur ici.
Alors, ce que vous entendez là, c'est que nous sommes dans la fameuse centrale solaire, centrale photovoltaïque du Burkina Faso, où nous étions hier avec le discours d'Emmanuel Macron. Vous avez entendu peut-être hier parler de cette fameuse centrale qui a été inaugurée ce mercredi. C'est la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Et vous allez vite comprendre pourquoi elle est si importante. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Fabienne.
Célia, l'énergie, ça on l'a bien compris, c'est la priorité numéro un du Burkina Faso. L'énergie solaire en l'occurrence. Cette centrale est à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou et c'est un enjeu crucial. Le Burkina dépend totalement de ses voisins en matière d'énergie et une grande majorité de la population n'a pas d'énergie, donc d'électricité. Le solaire apparaît comme une solution majeure et vous allez nous montrer comment ça marche, Célia.
Jacques à Jean-Jacques.
Oui.
Et nous confirmons que le disjoncteur est fermé. Donc le transport est en train d'être démarré.
Ok.
Ok, reçu.
Les premiers tests sont réussis. C'est le top départ pour cette centrale solaire de 33 MW. Pour le Burkina Faso, c'est une première. Nana Saïdou est très fière. Ce responsable de la Sonabel, l'entreprise nationale d'électricité, admire sous une chaleur écrasante les 130 000 panneaux solaires installés ici en quelques mois.
Alors là, on est au niveau du champ, la centrale, le site même de la centrale solaire. Et là, vous voyez toute l'allée, c'est des structures qui supportent les panneaux. Il y en a 1800 structures indépendantes. Comme vous le savez, la centrale doit durer 25 à 30 ans. Et avec les changements climatiques que nous avons, on a mis donc la barre très haute. Et normalement, les structures doivent résister à des vents de 120 km/h. Les panneaux s'étendent sur environ 55 hectares. Et c'est vraiment phénoménal.
Cette centrale est un projet phare pour le Burkina, car aujourd'hui, ce petit pays enclavé est obligé d'importer du pétrole pour alimenter ses centrales thermiques. Un gouffre financier et un non-sens environnemental. Daniel Serme est un autre responsable de la Sonabel.
Parce que le Burkina Faso fait partie quand même des pays les plus ensoleillés au monde. On a de l'énergie nettement moins chère par rapport donc aux centrales thermiques.
Par exemple, le thermique, on produit à plus de 100 francs le kilowattheure, alors qu'avec le solaire, on est autour de 40 francs. On pourra être un peu plus autonome. Bien sûr que nous sommes pionniers, nous sommes fiers de l'être.
Cette centrale construite en moins d'un an est un modèle pour la région et pour le Sahel en particulier. Pour Quentin Lebègue de l'Agence française du développement qui finance en partie ce chantier, l'enjeu dépasse les frontières.
Quand elle a été imaginée, cette centrale, il y a déjà 6-7 ans, parler de 20 MW puis 30 MW au Burkina Faso, ça paraissait un pari un petit peu fou quand même. Et puis finalement, on se rend compte aujourd'hui, la centrale, elle a été construite. Elle a été construite en à peine plus d'un an. Le prix est beaucoup plus bas que ce qui était imaginé au début, parce que le prix du solaire s'est effondré. Cette centrale, elle va avoir un impact au-delà du Burkina. Elle va montrer à tous les pays voisins que c'est facile. La priorité sur le secteur énergétique, c'est de développer la capacité solaire. Le pétrole coûte très cher, et puis on est dans un pays enclavé. Faire venir du pétrole ici, c'est des centaines et des centaines de camions qui traversent le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, tous les jours. Pour remplir des cuves de fioul ici, c'est quand même un processus assez compliqué et lourd et extrêmement coûteux.
Et dans ce pays où moins de 20% de la population dispose de courant, les attentes sont très fortes. Au nord du pays, par exemple, dans la région de Waïgouya, une ligne à haute tension vient d'arriver et la vie a changé. À la tombée de la nuit, lorsque les lampadaires s'éclairent, la petite ville de Gourcy n'a plus peur. Les femmes vont au puits, même tard, et elles peuvent travailler dans leur maison.
Puisqu'on était dans l'obscurité, on voit qu'avec l'éclairage, on est plus en sécurité et on arrive à suivre, par exemple, la télé comme on veut. On s'informe et, bon, avec l'électricité, par exemple, nous, les femmes, on peut développer des petits commerces. On peut vendre de l'eau pour avoir un peu d'argent.
Les quelques restaurants essentiels lieux de vie fonctionnent mieux également. Cette femme voit ses revenus augmenter depuis l'arrivée de la ligne à haute tension.
Ça change le fonctionnement de l'entreprise parce que là, on a le courant 24 heures sur 24. Maintenant qu'il n'y a plus de coupure, on gagne plus. À tout moment, il y a la ventilation, la boisson bien fraîche. Et à la télé qui est disponible, surtout pour des matchs.
Mais un peu plus au nord, tout près de la frontière avec le Mali, cette région a été placée en zone rouge à cause du risque terroriste. La plupart des familles n'ont pas d'électricité. Certaines ont manifesté leur colère dans la rue.
Le lotissement date depuis 2004, 13 ans après, et nous n'avons pas d'électricité, c'est de trop. Face au phénomène d'insécurité aussi qui va grandissant, donc ça inquiétait de plus en plus les populations. Il y avait des attaques sur la voie publique. Il y avait des agressions même à main armée.
Et toutes les familles ne peuvent pas être raccordées, faute de moyens. Produire une électricité moins chère est aussi un enjeu social pour Chekouma Boni de la Sonabel, l'entreprise d'électricité.
La pauvreté fait que beaucoup de gens n'ont pas la capacité même de se raccorder. On a un grand retard pour ce qui concerne non seulement l'électrification du pays, mais aussi l'électricité dans les foyers. L'électricité, ben, ici, c'est le premier facteur de développement. Vous savez, ici, on dit que quand le courant arrive, ben, le développement arrive.
Et dans cette région de Waïgouya, où habitent en gros 1 million de personnes, il n'y a que 18 000 abonnés. L'électrification est un défi énorme. Le gouvernement souhaite que la moitié de la population soit couverte dans les prochaines années. Pour réellement devenir un champion du solaire, le Burkina devra notamment construire de nouvelles centrales capables de stocker l'énergie. Si la centrale de Zaktouli a coûté 30 millions d'euros, le pays a besoin du double, au minimum. Le message sera adressé aujourd'hui à Emmanuel Macron.
Célia Kiray au Burkina Faso pour Un Jour dans le Monde sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un Jour dans le Monde.
L'actualité en série le mercredi, Trump, saison 2, la vie mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, du président Trump. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et décidément, on commence une fois de plus avec la polémique du jour, on pourrait le faire chaque jour, on reparle de tweets, c'est un peu toujours ça avec lui, mais parfois c'est vraiment grave. Et la polémique du jour, ce sont donc ces vidéos que le président américain a retweetées ce matin. Expliquez-nous ça.
Alors vous le savez, Donald Trump se lève tôt et entre 6h35 et 9h30 ce matin, il a publié 9 messages sur son compte Twitter, dont 3 relayaient des vidéos publiées par une certaine Jeda Franzen. Elle est la numéro 2 du parti d'extrême droite britannique Britain First. Alors la première vidéo est intitulée « Un musulman frappe un néerlandais ». On ne sait pas d'où viennent ces images ni de quand elles datent. Les deux autres vidéos datent de 2013. Sur l'une d'elles, on voit un homme briser une statue de la Vierge.
Yalla, yalla.
Voilà, sur la troisième, on voit des combattants de l'État islamique jeter un homme d'un toit. Donald Trump relaie donc ces messages anti-musulmans diffusés par une responsable d'un parti d'extrême droite européen. Shocking au Royaume-Uni, une porte-parole de Theresa May a parlé d'erreur tout à l'heure quant à Franzen du parti Britain First. Elle se félicite sur le réseau social de la publicité que vient de lui faire le 45e président des États-Unis.
Et alors Grégory, le fait que Trump relaie ces vidéos contre les musulmans, ça fait écho à une autre polémique, celle-là date du tout début de la semaine, quand le président est soupçonné de racisme parce qu'il s'adresse à la communauté des Indiens Navarro.
Oui, alors ça se passe lundi après-midi à la Maison-Blanche. Trump reçoit 3 Indiens d'Amérique, c'est Navarro, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 3 vieux messieurs. Mais dans son discours, le président fait allusion à la sénatrice démocrate du Massachusetts, Elizabeth Warren, avec un surnom qu'il lui a déjà donné à plusieurs reprises, parce que Warren revendique le fait d'avoir des origines indiennes. Trump est persuadé qu'elle ment là-dessus, et donc c'est pour ça qu'il l'a rebaptisée ainsi. Écoutez.
Et je veux juste vous remercier. Vous êtes vraiment des gens formidables, très spéciaux. Vous êtes ici dans ce pays depuis bien plus longtemps que n'importe lequel d'entre nous. Même si on a une sénatrice au Congrès dont on dit qu'elle est là depuis longtemps. Ils l'appellent Pocahontas. Mais vous savez, je vous aime bien parce que vous êtes spéciaux.
Voilà, Pocahontas.
C'est hallucinant, c'est hallucinant.
Le surnom que Trump a trouvé pour cette sénatrice, regard un peu sidéré des 3 vieux Indiens et réaction quasi immédiate d'Elizabeth Warren, c'était lundi après-midi.
Il est vraiment désolant que le président des États-Unis ne soit pas capable de participer à une cérémonie pour rendre hommage à ses héros sans prononcer une insulte raciste.
C'est vrai qu'on imagine tout à fait comment ils ont dû regarder ce président Trump, ces 3 vieux monsieur. Au milieu de toutes ces polémiques, Grégory, Donald Trump essaye de faire avancer un texte qui lui tient particulièrement à cœur, et c'est sa grande réforme fiscale, celle qui a été promise pendant la campagne.
Oui, alors Trump sera dans le Missouri cet après-midi pour présenter et défendre cette tax reform, examen prévu au Sénat d'ici quelques jours si tout va bien. Les opposants disent que cette réforme fiscale aux États-Unis va surtout bénéficier aux plus riches et aux chefs d'entreprise. Alors pour faire passer ce message, que font-ils? Eh bien précisément parce qu'on est en Amérique, ils se payent des spots de pub à la télévision. Et si je vous parle de celui-ci, c'est parce que il est assez frappant. Dedans, le réalisateur a fait appel à un sosie de Donald Trump. Casquette rouge, Make America Great Again sur la tête. On le voit au golf en train de tweeter, écoutez.
A president who tells it like it is. That's what America needs.
Alors, qu'est-ce que ça dit, Fabienne? Eh bien, que l'Amérique a besoin d'un président qui dit les choses, mais Donald Trump ne dit pas, je cite la publicité, que sa réforme fiscale va bénéficier aux plus fortunés, aux propriétaires de golf, et rapporter $1 milliard à sa famille. Et là, soudainement, le président n'a plus de mots. C'est comme ça que cette pub conclut cette publicité qui passe donc depuis le début de la semaine sur tous les grands réseaux télévisés pour dénoncer la réforme fiscale voulue par le président américain.
Allez, l'actualité en série version Donald Trump. On vous retrouvera bien tout ailleurs. D'ailleurs, Grégory, ce sera dans le journal de 19h de Sébastien Paor. Vous allez nous parler encore une fois d'un scandale sexuel qui secoue l'Amérique et pas des moindres. Une fois de plus, à tout à l'heure. Voici The Temptations, Cloud 9.
Childhood part of my life.
life wasn't very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in of a chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the climb. I'm doing fine up here on Cloud Nine. Listen, one more time, I'm doing fine up here on Cloud Nine. Folks down there tell me, they say, give yourself a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality of a rat race, where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie.
Ain't no lie.
It ain't even safe no more to walk the streets at night.
I'm doing fine.
Les Temptations sur France Inter, et voici Eva Béton.
France Inter. Un jour dans le monde.
Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Et c'est vous qui nous emmenez au cinéma chaque semaine. Eva, cette fois, c'est un documentaire très singulier. Il s'appelle Vienne dans la nuit.
Avant la nuit.
Avant la nuit,
c'est le mot important.
Avant la nuit, oui. Autant pour moi. On écoute la bande-annonce d'abord, on se retrouve dans une seconde.
Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père. Pourtant, j'ai le sentiment que quelque chose de lui m'a été transmis.
Voilà, Vienne avant la nuit, donc c'est signé Robert Bauder, Eva, et ça nous amène à travers l'Europe. On a déjà entendu avec la bande-annonce sur les traces de son grand-père.
De son arrière-grand-père qui a été enterré à Vienne, il est mort en 1929. Documentaire, on emploie ce mot parce qu'il n'y en a pas d'autre, mais c'est l'évocation d'un monde disparu. Il va utiliser aussi la littérature, Stefan Zweig, Joseph Roth, parce que quand il n'y a pas de traces, il faut aller chercher des moyens de faire comprendre qu'est-ce qu'a pu être ce monde. C'est un monde qui a disparu avec la nuit du nazisme. Et donc, nous allons avec lui. Il va pour rechercher la tombe de son arrière-grand-père. Il est mort en 1929. C'est l'histoire d'un ferblantier polonais pauvre qui avait voulu émigrer aux États-Unis. La vie de sa descendance aurait été différente s'il n'avait pas été refoulé de Ellis Island parce qu'il avait le traco, mais renvoyé en Europe. Il y a une histoire de barbe. C'est pas une histoire drôle, c'est une histoire cruelle. Vienne ne devait être qu'une étape. Robert Bauder.
Pour des raisons obscures, on lui avait coupé la barbe. Pour un juif pieux, ne plus avoir de barbe, c'est le signe du déclin de la foi. Pour lui, c'était impensable. Il ne pouvait pas décemment revenir dans sa petite ville de Pologne sans barbe. Il s'est arrêté à Vienne au retour, le temps que sa barbe repousse. Une barbe, ça met un certain temps à repousser quand même. Et il a vu que Vienne est une ville bien plus intéressante que la petite ville dans laquelle il vivait en Pologne. Et il a convaincu sa famille qu'il fallait vivre à Vienne.
Formidable, tout ça juste parce qu'il faut que la barbe pousse.
Il faut que la barbe pousse, histoire d'exil et le destin et la fatalité qui va venir. Et Robert Bauder va circuler dans le temps. Donc on va être dans le Vienne d'hier qui est d'abord accueillant pour cet aïeul. Et puis va venir cette nuit qui est la nuit du titre, qui est la nuit du nazisme. Il rappelle, et là il devient cinglant Robert Bauder, là il n'y a plus ce ton mélancolique. Il rappelle que Vienne et l'Autriche a voté à 99% pour l'Anschluss, mais qu'après la guerre, l'Autriche a réussi à se faire reconnaître comme victime du nazisme. On voit aussi le Vienne d'aujourd'hui, oublié de son passé. Il y a tout ça, il y a le Vienne du meilleur et il y a le Vienne du pire.
Vienne, capitale culturelle de l'Europe, François Joseph, qui était un empereur accueillant, pas seulement pour les Juifs. C'était bon, l'Empire austro-hongrois était énorme. Ils avaient tous leur identité. Ils n'étaient pas mon peuple, ils étaient mes peuples. C'est-à-dire qu'il y avait un respect. Et il était bienveillant. Ça n'a pas empêché Vienne de choisir un maire antisémite, Karl Luger, dont les écrits ont inspiré Hitler, ce qui n'est quand même pas rien. Et Karl Luger continue à être un personnage important, puisqu'il a toujours sa statue à Vienne sur une place qui porte son nom. Et en même temps, c'est à Vienne qu'est né le sionisme, c'est à Vienne qu'il y a eu tous ces grands écrivains juifs. Et voilà, c'est une ville de paradoxes, et qui continue d'ailleurs. Quand on voit le résultat des dernières élections, on sait que l'étranger n'est toujours pas bien vu.
Il y a un chiffre terrible que vous rappelez sur la part des Autrichiens dans les camps d'extermination.
Oui, 40% du personnel d'Auschwitz était d'origine autrichienne, alors que depuis l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne, la population totale d'Autriche ne représente que 8% du Reich.
L'arrière-grand-père est le seul qui est mort paisiblement. Mm-hmm. Il y a une photo dans le film de ses 75 ans. Il y a 19 personnes de sa famille autour de lui. Robert Bobert nous dit, il les prend un à un, 12 d'entre eux sont morts dans les camps d'extermination. Il dit leur nom, c'est important de dire le nom.
Il est de tradition, le jour anniversaire de la mort des parents, des grands-parents, d'aller sur la tombe et de dire simplement le nom à voix haute, pour que le nom soit entendu et pas oublié. Cela n'a pas de tombe. C'est pourquoi la tombe, la sépulture de cela, c'est cette photographie.
Il y a une phrase dans le film, « Ce passé a besoin de notre mémoire et les morts de notre fidélité ». C'est un magnifique film parce que c'est d'une immense délicatesse. Toute la puissance va venir de cette délicatesse. Je peux dire encore un mot.
Allez-y, bien
lisez
sûr.
Un livre de Robert Bobert, c'est quoi de neuf sur la guerre? Un livre extraordinaire, là aussi de finesse et de force.
Et vous voyez, c'est formidable parce que cette phrase, ce passé a besoin de notre mémoire et les morts de notre fidélité, finalement, ça nous ramène au début de l'émission,
oui,
et boucle
tout à fait,
très
j'entends.
Joliment la boucle avec le père Najib avec lequel on parlait tout à l'heure en début d'émission et qui, lui, de son côté, parlait des chrétiens d'Orient. Eva Bétan, merci beaucoup. Vous revenez, bien sûr, quand vous voulez. L'édito d'un jour dans le monde est signé Olivier Poujade. Ce soir, Olivier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Olivier, au fond des mers, coûte que coûte, toujours aucune trace du San Juan et de l'équipage même de ce sous-marin argentin qui n'a plus donné signe de vie depuis maintenant 2 semaines. Une avarie, une explosion, la vétusté du San Juan, dénoncée d'ailleurs par les familles des probables victimes, Olivier.
Pour vous donner une idée, la fourchette d'âge des équipements de l'armée argentine se situe entre 30 et 50 ans. La construction du San Juan remonte à 1982, et même s'il a été entièrement révisé il y a 6 ans, on peut s'interroger, c'est vrai, sur le risque que prend l'Argentine lorsqu'elle envoie en mission 44 membres d'équipage à bord d'une embarcation datant du siècle dernier. Mais en réalité, les Argentins n'ont pas le choix. La surveillance des fonds marins est aujourd'hui fondamentale dans la politique de défense du pays. C'est ce que soulignait ces jours-ci un historien spécialiste des questions militaires en rappelant que l'Antarctique et l'océan représentent 50% du territoire argentin. Il est donc indispensable pour eux de maintenir à tout prix une présence sous-marine.
Et une zone stratégique, Olivier, hein, pas simplement pour l'Argentine d'ailleurs.
Ah, c'est un espace de plus en plus stratégique. Le fond des océans n'a pas connu de trafic aussi dense depuis la fin de la guerre froide. D'une part parce que la technologie permet aujourd'hui d'accéder à des ressources jusqu'ici inexploitées, que le réchauffement climatique a rendu aussi accessibles certains lieux inexplorés qui n'appartiennent à personne. Du coup, les nations dotées d'une flotte sous-marine patrouille pour asseoir leur souveraineté. Et à ce jeu-là, plus on est équipé, plus on est influent.
Et laissez-moi deviner, donc, ce sont les États-Unis, évidemment, qui gagnent ce concours.
Oui, mais juste derrière, il y a la Russie, visiblement très ambitieuse dans cet espace sous-marin. C'est ce que constate la dernière revue stratégique de défense et de sécurité nationale, où l'on nous parle d'une présence navale russe permanente dans l'océan Atlantique depuis 2013. La Russie se déploie de nouveau, Fabienne, et chercherait à affaiblir le lien transatlantique. Une relation États-Unis-Europe matérialisée sous l'eau par des câbles de télécommunication, des milliers de kilomètres de câbles posés au fond des océans par lesquels circulent chaque seconde des centaines de milliers de données plus ou moins confidentielles. Il en existe une vingtaine entre les États-Unis et l'Europe et il suffit d'en piéger moins de la moitié pour semer la panique. Le blackout, plus d'internet, plus d'échanges numériques, l'économie des pays plongés dans le noir se retrouverait ainsi au point mort. C'est donc aussi et surtout au fond des mers que se joue la guerre du big data, le contrôle de ces flux.
Et du coup, Olivier, une dernière question. Qu'est-ce qui se passe à 20 000 lieues sous les mers?
Eh bien, on assiste à une véritable chasse au trésor, le trésor le plus convoité par les grandes puissances, l'accès aux informations les plus secrètes, à des données économiques, diplomatiques. Si vous contrôlez tout ça, vous avez la main sur le cyberespace. Il est donc essentiel de protéger, de surveiller ce gigantesque réseau pour s'assurer surtout qu'il ne puisse pas être piégé ou endommagé, parce que c'est apparemment l'activité favorite de la flotte russe qui joue donc à cache-cache avec nos oreilles d'or. C'est comme ça qu'on appelle les sous-mariniers chargés de localiser, d'identifier le moindre bruit sous l'eau. Il y a encore quelques semaines, des sous-marins russes ont été repérés en train de rôder au large des côtes françaises. Et si vous êtes repéré, la partie est perdue, car il faut à tout prix éviter l'incident diplomatique. C'est une guerre silencieuse qui se joue. Aucune arme, aucune torpille, une chasse aux données informatiques que l'on espère compromettantes ou que l'on tentera de modifier pour qu'elles le soient.
Allez, Olivier Poujade, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le 18-20 de France Inter continue avec le journal et puis le téléphone sonne.